Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début. Et vous retrouverez Émilie Dès tout à l'heure à 11h. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est le chanteur Ben, ex l'oncle Soul. Mais il est toujours seul pour son cinquième album, Red Mango, qui est plutôt reggae. Vous entendrez, il nous racontera. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebret, ses stories, sera là pour clore l'émission. Bonjour Héloïse Goua.
Bonjour Philippe.
Bonjour Sébastien Bordenave.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques et ce matin, vous vouliez revenir sur la formation du nouveau gouvernement. Formation qui a beaucoup intéressé les journalistes, au premier rang desquels figure David Pujadas.
Oui, rattrapé par l'urgence de l'actualité, Philippe, je n'avais pas encore eu le temps de vous parler de ce magnifique sujet, la nomination des nouveaux ministres du gouvernement Borne. Un sujet qui a mis les journalistes politiques en émoi toute la semaine dernière, et notamment David Pujadas, qui trépignait d'impatience jeudi dernier sur LCI.
Que se passe-t-il ? On est près d'un mois après le deuxième tour, et toujours rien, toujours pas de fumée blanche sur un éventuel gouvernement.
Toujours pas de gouvernement, un mois après l'élection, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est beaucoup trop long tout ça. Alors, David Pujadas a décidé d'avancer tout seul.
Les pistes, les noms, qu'est-ce qui circule, Baptiste ?
Il a demandé à l'infortuné Baptiste Morin de présenter une rubrique d'anticipation de politique fiction, les journalistes adorent ça, et de nous dire enfin qui serait nommé ministre et à quel poste. Baptiste s'est donc emparé du dossier, il a enquêté et il a eu presque tout bon. Vas-y Baptiste, on commence.
Commençons par les possibles nouveaux visages. Catherine Vautrin, par exemple, longtemps en lice pour Matignon, elle pourrait être nommée au ministère des Armées. C'est ce qu'on entend beaucoup.
Ok, ministre des Armées, Catherine Vautrin. Bon, on va quand même vérifier avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui 24 heures après ça, était chargé d'annoncer, lui, le vrai gouvernement.
Monsieur Sébastien Lecornu. Ministre des Armées.
Ah merde, c'est pas votre, hein. C'est Lecornu. Pourtant, il l'avait, Lecornu, mon Baptiste, mais pas au bon endroit.
Sébastien Lecornu, lui, pourrait prendre le relais donc comme porte-parole du gouvernement.
Il l'avait comme porte-parole, dis donc, mais manque de bol.
Madame Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement.
Bon, allez, c'est pas grave, on rejoue. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre, Baptiste ?
Il y a un autre nom encore. Yael Braun-Pivet. Elle, son nom est cité pour le ministère de la Justice.
Ok, le ministère de la Justice pour Yael Braun-Pivet, on vérifie.
Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Aïe, ça marche pas non plus. Allez, Baptiste, te décourage pas, balance-nous-en un autre.
Autre nom qui revient régulièrement ces dernières heures, celui de Catherine Pégard. Elle pourrait être nommé au ministère de la Culture.
D'accord, ministre de la Culture, Catherine Pégard, c'est bon ?
Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.
La vache, le pauvre Baptiste, il n'y a vraiment pas de bol. Bon, allez, on se décourage pas, on y retourne.
Julien de Normandie, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, très proche d'Emmanuel Macron, il est donné par certains au ministère de l'Éducation nationale.
Ok, Éducation nationale, Julien de Normandie, on vérifie ?
Monsieur Pape Ndiaye. Ministre de l'Éducation nationale.
Bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Mais le pompon, Baptiste l'a décroché avec le ministère de l'Écologie. Là, il n'avait pas seulement un nom, il en avait trois. Il y avait trois possibilités.
On entend beaucoup parler de l'eurodéputé Pascal Canfin.
Ça serait Pascal Canfin ou bien ?
Plus disruptif, on en a déjà parlé ici. Le profil de l'ingénieur et grand militant écologiste Jean-Marc Jancovici. Son nom est toujours cité assez régulièrement.
Jean-Marc Jancovici, à moins que ce ne soit un troisième larron.
Et puis même, le nom de Yannick Jadot est évoqué.
Voilà, Canfin, Jancovici ou Jadot. Et finalement, qui a été nommé ?
Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Eh oui, presque tout bon, vous disais-je. Quel pronostiqueur, ce Pujadas, hein. D'ailleurs, je vous livre une information exclusive. Hein. Paraît que Tiercé Magazine, Bilto et Paris Turf sont sur les rangs pour le recruter dès la rentrée prochaine. Toutefois, d'après les indiscrétions de son camarade Baptiste, Pujadas pourrait finalement atterrir ailleurs. Eh oui, à l'heure à laquelle je vous parle, Philippe, c'est plutôt la chaîne Equidia qui tiendrait les cordes.
Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. Héloïse Goua, votre indispensable ce matin, ce sera aux alentours de 10h30.
Je suis sûre que vous avez déjà rêvé d'être téléporté dans une autre époque. Philippe.
Tellement, j'aimerais tellement.
Et bah c'est entre autres ce que vit le personnage principal de cette série française dont je vous parle tout à l'heure.
Vous ne me demandez pas où est-ce que j'aimerais téléporter.
Bah non, on en parle tout à l'heure, c'est un teaser.
Sébastien Bordenave.
Une BD qui s'appelle Les Saveurs du Béton. L'autrice est née à Hong Kong. Elle est arrivée en France à 6 ans. On peut la comparer un peu à Riyad Satouf qui avait raconté son histoire franco-syrienne. Elle se décrit avec humour comme une banana girl. girl, une femme blanche à l'intérieur et jaune à l'extérieur. C'est ces mots. Hein.
Dans un instant, nous serons avec le chanteur Ben. On va parler de son nouvel album Red Mango, dont on écoute tout de suite le titre Imagine, reprise du titre culte de John Lennon sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Ben.
Bonjour.
Je dis vous parce que vous êtes déjà dans ce studio, chanteur, compositeur. Quand on vous avait découvert en 2009, vous aviez un pseudonyme après votre diminutif, vous étiez Ben l'oncle Soul, triple disque de platine avec le tube Soulman. Et votre actu, c'est ce nouvel album Red Mango dont on vient d'entendre cette reprise de Imagine. Tournée qui continue après le New Morning, vous serez à Corbeil-Essonne le 31 au Festival Eldorado dans l'Aude, Festival Otampo, l'Outramundo le 13 décembre. Je redirai toutes ces dates à la fin de l'émission. Mais d'abord, je parle de l'album. Album de reprise, mais à la sauce reggae ou caribéenne, comme on vient de l'entendre. Toutes les chansons peuvent se transformer en version reggae.
Ouais, en tout cas, celle-ci, on a essayé et j'espère réussi. C'est plus simple dans ce sens-là que dans l'autre, peut-être d'adapter, je ne sais pas, moi, par exemple, un thème en jazz, un thème de reggae en jazz, ça doit se faire aussi.
Ça se fait un petit peu, il y a eu des disques de jazz à partir des chansons de Brassens. Je me souviens de ceci. Comment vous avez eu cette idée? Pourquoi? Parce que ce n'était pas votre domaine. Peut-être c'est votre domaine à la maison quand vous étiez petit, mais on vous connaissait plutôt sur la soul, même le pseudo Ben l'oncle Soul.
Oui, en fait, je dirais que le reggae, ça a toujours été en trame de fond. Il y a toujours eu un morceau reggae dans mes albums, quelque chose de teinté ou dans un arrangement, voilà, un petit skunk qui rappelle justement ce reggae-là. Moi j'ai tourné sur mon deuxième album avec les Monophonics, qui est un groupe de San Francisco qui fait de la soul plutôt psychédélique.
Ouais.
Et tous les soirs on écoutait beaucoup de reggae dans le bus, peut-être aussi pour se changer les idées. Et donc à la fin de cette tournée on s'est dit, bah tiens, quand est-ce qu'on se revoit et quel va être le prochain projet dans lequel on va pouvoir travailler ensemble. Et le trompettiste Ryan a lancé comme ça, on devrait faire un disque de reggae. C'était une idée un peu jetée comme ça, et puis en fait, finalement, quelques années plus tard, on le fait.
Et des fois, ils se disent des choses comme ça, dans le tourbus, on est un peu fracassé.
C'est ça.
On n'a pas bu que de l'eau, et puis la vraie fausse bonne idée devient la bonne idée, et l'album.
Ouais, c'est ça, et puis quelque chose de l'ordre de la fraîcheur aussi, l'envie juste de prendre du plaisir et de rejouer ensemble.
Où est-ce que vous avez enregistré? Ils sont californiens, vous avez enregistré en Californie, en Jamaïque, ou en banlieue parisienne?
On a enregistré à San Francisco, plus exactement à San Rafael, dans le nord de San Francisco, un petit village. Dans lequel ils ont leur studio d'enregistrement. C'est un peu leur temple. Ils ont accumulé au fur et à mesure des années pas mal de matériel et puis surtout des choses un peu vintage comme ça se faisait dans les années 60.
Des magnétos à bandes par exemple, parce que maintenant j'explique, tout est numérique, mais les magnétos à bandes, ils marchent encore. Je connais des gens qui en ont, mais je ne connais pas de gens qui en ont et qui fonctionnent.
Ouais, eux, ils continuent de l'utiliser, ils l'entretiennent. Et puis aussi, les instruments sont vintage.
À part le plaisir fétichiste de jouer sur des belles vieilles guitares qu'on vécu, ça change quoi en vrai? Ça change quoi dans le son?
Ça imprime la musique d'une manière très différente, je trouve. Y a une vibration qui est particulière. C'est vrai qu'à partir des années 80, on est rentré dans une nouvelle ère de l'histoire de la musique, avec du close miking, avec des pièces qui étaient de plus en plus mates, où on entendait de moins en moins la pièce, en fait, finalement. Ouais. Et c'est aussi l'ère du numérique qui a rendu, on va dire, toute cette patine qui est assez différente. Moi, j'aime bien le travail sur bande parce que déjà, on n'a pas trop le choix. C'est 3-4. Il faut tout mettre dans le...
C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rater, on ne peut pas refaire. Contrairement au numérique. Si on se rate, c'est sur la bande.
Voilà. Si on se rate, on recommence et on remet sur la bande.
Pour entendre le son, il fallait choisir des titres. J'aime beaucoup le titre Stay, alors je l'ai choisi. Oh là, il est parti un peu vite. Extrait. I want you to stay, stay. Oh, nah, nah. C'était pas facile parce que c'est un album de reprise, je l'ai dit. On entend que ça sonne très très bien. Et vous passez après Rihanna.
Ouais, Rihanna, c'était pas la plus intimidante pour moi. C'était peut-être John Lennon, sans doute, avec Imagine.
Pourquoi?
Parce que c'est une légende, ce morceau à 50 ans de vie.
Non pas que ce soit le plus dur à chanter, mais parce que c'était emblématique, c'était totémique.
C'est ça. Ouais, reprendre John Lennon, pour moi, c'est vrai que j'ai hésité un peu. D'ailleurs, je prends une voix de tête un peu pour pour
vous
me
montez
maquiller.
Dans les aigus.
Ouais.
Pourquoi? Pour pas ressembler à John Lennon ou pour c'est une sorte d'hommage à Curtis Mayfield?
Bah c'est un hommage à Curtis d'une certaine manière. À Junior Mervyn, plus exactement, qui faisait justement cette espèce
yes, moi
de...
je connais pas.
Junior Mervyn, c'est un chanteur jamaïcain qui fait du reggae avec la voix de tête de un peu de Curtis Mayfield. Et j'adore son disque. Et j'ai un disque de lui à la maison. Je me suis dit, tiens, ça peut marcher sur ce morceau. Faut trouver une manière de le chanter très différente, c'est vrai. Et puis, c'était une manière aussi de changer, moi, de voix. Je chante jamais en voix de tête.
Ouais, télescopage avec l'actualité, parce que vous avez repris Imagine de John Lennon. Je vais citer les paroles en français pour qui ne parle pas bien anglais. Imagine qu'il n'y ait pas de pays, pas de frontières, personne à tuer, personne pour qui mourir. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la guerre en Ukraine et Poutine qui veut redessiner le pays.
Ouais, bah, c'est vrai qu'au moment où on l'a enregistré, on était encore bien loin de penser à cette horreur-là. Néanmoins, c'est une chanson qui résonne depuis 50 ans, malheureusement. Sur différents aspects, sur le racisme aussi notamment. C'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe là en ce moment aux États-Unis, c'est assez douloureux.
La tuerie dans l'école, évidemment.
Ouais, notamment. Et puis voilà, je pense que c'est un message qui ne pourra pas perdre de sa valeur, en tout cas.
On reste avec vous, Ben, ex l'Oncle Sol. On va recevoir Lisa Marie Marquez. Ex Lisa Marie Marquez, Culture Média continue.
Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du chanteur Ben, on parle de son album Red Mango et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Ben.
Bonjour.
Vous vous êtes fait connaître sous le nom de Ben l'Oncle Soul. Vous avez remporté la victoire de la révélation scène de l'année en 2011. Vous nous présentez aujourd'hui votre 5e album studio, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Ben, Benjamin, vous êtes né à Tours et vous avez grandi dans sa banlieue sud. Dès petit, vous baignez dans la musique en écoutant les disques de votre maman, de la soul, par exemple, au hasard, Otis Redding. Vous écoutez aussi Stevie Wonder. Et pour la musique française, votre maman vous fait découvrir les chansons à texte de Francis Cabrel.
J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier.
Ben enfant, vous passez vos étés en pleine nature dans le Berry chez vos grands-parents. Votre grand-père vous apprend à pêcher. Et puis à partir de l'âge de 7 ans, votre maman décide de ne plus avoir de télévision à la maison. Vous développez alors votre imaginaire en vous mettant à beaucoup dessiner, d'autant que vous montrez un vrai talent pour le dessin. Vous avez un bon coup de crayon. Vous prenez aussi des cours à l'école, des cours de peinture avec un super professeur, un peintre qui, des années plus tard, est venu vous voir en concert, c'est bien ça?
Ouais, Jamal Lansari, c'est un peu mon maître en art plastique. C'est... quelqu'un qui très vite m'a guidé et m'a mis sur les rails et qui a reconnu quelque chose sans doute dans mon regard ou ma manière de travailler la peinture, c'est marrant.
Et vous dessinez toujours ?
Plus beaucoup, non, plus beaucoup. Même si je continue de cultiver en fait finalement mon regard artistique sur les choses. Mais j'aimerais bien reprendre la matière, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de tournées donc...
Autre activité qui va beaucoup compter, Ben, c'est le basket que vous pratiquez non pas en club mais en plein air. C'est ce qu'on appelle, Philippe, le streetball, le ouais. Basketball de rue. Et vous avez, je crois, à l'adolescence, passé beaucoup de temps dans l'espace de jeu de votre quartier.
Ouais, ça s'appelle Claude Chap. Et en fait, c'est le terrain qui est juste derrière l'école primaire dans laquelle j'ai grandi. Et on a passé tous nos étés là, à écouter de la musique et à jouer au basket.
Mais la musique est toujours là, présente à l'adolescence. Vous découvrez Michael Jackson et les Boys to Men.
Yes.
vous faites presque un karaoké, vous le chantez en...
Mais en fait, moi, tous ces disques, ça me ramène directement à mon enfance. Et c'est vrai que c'est très ludique. Et surtout, c'est sur ces disques que j'ai appris à chanter, quoi.
Vous les écoutez encore ou c'est fini?
Je les écoute encore, ouais.
Ben, à l'école, vous êtes bon élève, sérieux et appliqué. Vous passez un bac art plastique avant de poursuivre vos études aux Beaux-Arts de Tours. Vous voulez alors devenir enseignant. Mais le destin va en décider autrement. Un jour, vous passez devant une église de Tours et vous entendez un groupe de gospel. Vous entrez alors pour les écouter et vous leur demandez si vous pouvez vous joindre à eux. Vous intégrez alors le chœur Fitiavana. Fitiavana, ouais. Ça veut dire amour en malgache. Tous les week-ends, vous faites de la musique et de l'animation avec ce groupe. On écoute un extrait.
Ça, c'est vous?
Ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais. Lean on Me, Jean-Marc Herbrotto, qui est le directeur musical de cet orchestre. Et son épouse de l'époque était malgache, et donc c'est pour ça qu'il a donné ce nom à ce chœur. Et ouais, c'est la première fois que je chante devant des gens, quoi.
Et alors, ça fait quel effet?
Vous dites, Jean-Marc. En plus, tu marques un moment assez à part de leur vie, parce que c'était pour des baptêmes, des mariages ou des enterrements. Du coup, c'est quelque chose qui reste. Et il faut être dans l'instant, il faut être avec eux. Et il y a aussi ce moment où tu te rends compte que la musique, elle rend magique le moment. Quoi.
Ouais, et là, donc on brille pour vous, vous avez laissé tomber le dessin.
Ben, vous êtes piqué par le virus de la musique. Vous commencez alors à écrire vos propres textes et vous vous faites repérer par la chanteuse Laure Milan qui vous propose de faire sa première partie à l'Olympia. Vous signez ensuite avec le label Motown France, filiale d'Universal Music. En mai 2010, vous sortez votre premier album éponyme, Ben l'Oncle Soul. 14 titres en français et en anglais que vous allez défendre sur scène. Vous allez d'ailleurs enchaîner plus de 300 concerts. Ben, le public est conquis par votre look nœud papillon et bretelles, votre musique inspirée de la soul et votre bonne humeur. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Génial, et cet album, vous ne l'avez pas dit, triple disque de platine. Quand même, pour son premier essai, c'est juste dingo.
Ouais, c'est dingue d'avoir un premier disque qui fonctionne aussi bien. Et finalement, pour moi, dans... la carrière que j'avais commencé à dessiner plutôt dans le dessin et dans les arts plastiques, c'était aussi très rassurant de se dire « Ah d'accord, ok ». Donc j'avais pris ma petite année sabbatique pour essayer, voir ce que ça donne la musique. Et finalement, bah, c'est là-dedans qu'il faut faire une carrière sans doute.
Merci beaucoup Lisa-Marie Marquez. On vous retrouve demain. Vous restez avec nous. Ben, okay. Notre premier indispensable arrive dans quelques instants. Héloïse Goy qui nous présente une nouvelle série française à voir sur Netflix. Et on va aussi parler, ça va vous faire plaisir, d'un roman graphique avec Sébastien Bordenave. C'est dans un tout petit instant. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
On est avec Ben, ex-Ben l'Oncle Soul. C'est son nouvel album qui vient de sortir. Il s'appelle Red Mango. C'est des sonorités reggae jamaïcaines. Il y a des reprises. On a entendu la reprise d'Imagine de John Lennon. Et puis aussi, vous choisissez des chansons, des titres parce qu'ils sont emblématiques, parce qu'ils ont connu un énorme succès, et aussi des chansons qui ont une histoire, celle de Sugarman notamment. On va entendre quelques notes et vous nous racontez cette histoire absolument édifiante. Sugarman. Sugarman, c'était chanté par un certain Sixto Rodriguez. Je fais exprès, c'est à dessein que je dis un certain, parce que c'était une star et pas une star. Racontez l'histoire de ce titre et de cet homme.
Ouais, c'est assez incroyable. Il y a un documentaire qui retrace parfaitement son histoire, qui est, je trouve, fantastique et assez commune, j'imagine, dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire de sortir des disques qui tombent dans l'oubli. Et Sixto Rodriguez est une véritable star à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud.
Il vient de quel pays ?
Il est américain.
Il est américain et il est une star en Afrique du Sud parce que ce titre, Sugarman. Est le tube presque national de l'Afrique du Sud.
Alors, c'est le tube national de l'Afrique du Sud. Ça devient carrément une légende. C'est-à-dire que comme le mec n'est pas sur le territoire et carrément n'existe pas dans les radars, à l'époque, il n'y a pas forcément Internet, les légendes et les histoires sur ce gars... se succèdent. Alors, on parle de plein de... Voilà, les légendes urbaines, on va dire. Et finalement, il y a deux journalistes, il me semble, qui se rendent compte qu'il faut retrouver ce mec-là. Et au moins lui faire rencontrer son public.
Et il le retrouve, mais ouais. Il vit dans la plus grande pauvreté et il ignore même, puisque Ben a raison, c'était avant Internet, il ignore même qu'il est une star. Les gens d'Afrique du Sud ne connaissent pas sa tronche et lui ne sait pas qu'il est connu.
Et il remplit des stades en Afrique du Sud, donc ils vont le chercher. Lui est complètement étonné, c'est aussi quelqu'un qui est, je pense, très humble. Et il fait cette tournée en Afrique du Sud. Ils font ce documentaire et le documentaire explose. Donc après, il fait une tournée en Europe et aux États-Unis aussi.
Et en même temps, passer de l'ombre à la lumière, ça ne lui a pas plu tant que ça.
Je pense que c'est quelqu'un qui a des
pas
valeurs...
Bien. Il ne se sentait pas bien devant une scène et devant une foule en délire pour lui.
En tout cas, il a retrouvé son anonymat juste après la série de concerts dédiés au succès du documentaire. Et il est reparti travailler dans le bâtiment, il me semble.
Ce qui est quand même assez incroyable, en espérant qu'il touche les droits quand même en étant dans le bâtiment, parce que si ça vend partout dans le monde entier, là on vient de lui donner des dollars en passant un extrait.
J'ai aucune idée de comment ça se passe.
Vous savez quoi ? Comme Héloïse Goua est avec nous, je vais lui dire, Héloïse, pour la prochaine fois, donnez-nous des nouvelles de Sixto Rodriguez.
Allez, je vais chercher ça pour vous.
Héloïse, aujourd'hui vous nous parlez d'une série française au pitch très, très original. C'est une fiction, hein ?
Ah oui, c'est
ou c'est authentique ?
Ah bah, vous allez voir, oui, c'est une fiction, même si on aimerait
une réalité. Parfois, ça fait trois fois que vous... me présenter des séries où tout est vrai, on est scié, on n'arrive pas à croire que ce soit vrai.
Oui, mais enfin là, c'est un petit peu fantastique.
C'est justement ce qui vous a plu raconter.
Bah oui, c'est un pitch original, mais ce qui est fort, c'est que je crois qu'il nous parle à tous. Philippe, Ben, Sébastien, est-ce que vous n'avez pas déjà rêvé de vous glisser dans la peau d'une autre personne, juste le temps d'une journée ?
Pas une autre personne, mais une autre époque.
Et une autre personne, vous, Ben ?
Ouais, Mohamed Ali, j'aurais voulu. Ouais.
Ah, Mohamed Ali.
Juste pour prendre des coups.
Non, pour gagner, pour être champion.
Et vous disiez, Philippe, une autre époque aussi.
Ah, mais tellement. Moi, j'aimerais voir la préhistoire, Jules César. Et Louis XIV, Versailles Louis XIV. Bon, et la préhistoire surtout.
On va un petit peu moins loin dans cette série, parce que Léa, elle va expérimenter justement ce changement d'époque, ce changement de peau, dans cette série qui s'appelle Les 7 vies de Léa. Il y a pas mal d'indices dans ce titre, vous verrez. Léa, c'est une adolescente qui n'est pas très bien dans ses pompes, et après une rêve partie dans les gorges du Verdon, où elle a un peu trop forcé sur la bouteille, elle tombe par hasard sur des ossements humains. Alors elle prévient la police, qui commence à mener une enquête. Ça, c'est le tout début du premier épisode. Et puis après cette nuit éprouvante, Léa va se coucher. Et quand elle se réveille, elle se sent légèrement différente.
Oh putain ! Putain, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bad là encore ? T'es qui toi ? Ok, je vais me réveiller.
Putain, réveille-toi.
Rizma ?
Je suis un garçon.
Ok !
Toi, t'es qui toi ?
Je suis ton petit frère.
J'ai pas de frère.
T'es con ou quoi ?
Alors c'est en sentant de nouveaux attributs sur elle et en parlant avec son nouveau frère qui n'y comprend rien que Léa réalise qu'elle est dans le corps d'un jeune garçon qui s'appelle Ismaël. Oui, c'est vrai que c'est plus visuel que auditif, c'est pour ça que je voulais...
Non mais le mot attribut était très poli, c'était parfait.
Voilà. Et donc elle comprend rapidement que ce corps qu'elle habite désormais et qui est bel et bien vivant, eh bien c'est celui qu'elle a retrouvé pendant sa rêve partie. Alors Léa se donne une mission, comprendre ce qui a mené à la mort d'Ismaël et tout faire pour l'en empêcher.
Et vous nous disiez, Héloïse, que la série s'appelle Les 7 vies de Léa, donc ça veut dire qu'elle va se réveiller dans la peau de donc 6 autres personnes.
Eh oui, chaque matin, Léa découvre qu'elle a squatté, sans le vouloir, elle n'a rien demandé, elle a squatté le corps de personnes qui sont toutes des proches d'Ismaël. Et c'est ce qui va lui permettre de mener l'enquête sur cette mort mystérieuse et d'essayer de tordre le cou au destin pour l'empêcher de mourir. Et ce qu'il y a de très intéressant dans tout ça, c'est que l'adolescente voyage aussi dans le temps. Ismaël est mort il y a 30 ans. On est donc propulsé en 1991, l'année de sa mort. Et les années 90, oui, c'est un peu moins loin que Louis XIV. Hein.
Oui, mais au moins, ça roulait bien.
Les années 80, et ça nous parle un peu plus à tous. Eh bien, c'est une époque qui parle à la plupart d'entre nous. C'est le temps des Walkman, de Terminator 2 avec Arnold Schwarzenegger, ou encore de ce titre.
Ah, j'ai ta compile, Sandra.
La bombe atomique.
Trop chiant, Max. Tube de l'été oublié. Hein.
Everybody dance now.
Elle risque de marcher cette musique, non ?
Tellement, mais tellement, ça sent le tube.
Ça sent le tube. Bon, et bon, alors qui dit retour dans le passé dit aussi décalage au niveau des valeurs, notamment sur le féminisme ou sur les discriminations physiques. Et Léa, en bonne représentante de la génération Z, ne va pas se gêner pour mettre un peu de 21e siècle dans ce lycée encore largement misogyne.
Est-ce normal que ces bras fassent la taille de tes cuisses ?
Vous êtes des connards de grossophobes, y a pas à parler des gens comme ça en fait.
Grosso quoi ? Je connais pas ça.
Prends un livre. Instruis-toi et après tu parles avec moi.
Alors, même si le but premier de Léa, c'est d'élucider la mort d'Ismaël, vous l'avez compris, eh bien, on va pas se gêner pour expérimenter ce que c'est que d'être dans le corps d'un garçon et par exemple, au hasard, de coucher avec une fille. Bah oui, comme tout le monde, elle a envie de savoir. Beaucoup de choses intéressantes dans cette série, c'est frais, c'est émouvant, ça nous rend nostalgique, c'est la très bonne surprise de ce mois de mai.
C'est une série française.
Eh oui.
7 vies de Léa, combien d'épisodes?
Eh ben, bien évidemment, 7 épisodes pour les 7 vies de Léa. Et c'est à voir sur Netflix.
Ça vous a tenté, Ben?
Chouette, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça a l'air sympa.
Vous êtes abonné?
À Netflix, ouais.
Ah bah super. Fait. Culture Média continue à parler de dessin. C'était pas prévu comme ça, mais en fait, si, c'était totalement prévu. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes en compagnie de Ben. On parle de son nouvel album qui s'appelle Red Mango. On parle aussi de graphisme, de dessin. Vous avez failli être dessinateur. Ça va absolument vous passionner ce que va nous raconter Sébastien Bordenave, que je salue.
Bonjour.
À nouveau. Bonjour. Votre BD du jour, Sébastien, s'appelle Les Saveurs du Béton. C'est la suite de Banana Girl. L'autrice, elle s'appelle Kayle Lam d'abord. Est-ce qu'on peut lire cette BD sans avoir lu le premier tome? J'espère que oui, parce que sinon ça plombe un peu la chronique.
Je l'ai fait, Philippe, donc vous pouvez le faire. Je vous présente Les Saveurs du Béton. L'autrice est née à Hong Kong. Elle vit en France depuis qu'elle a 6 ans. Sa mère lui parlait en cantonais parce qu'elle venait de Shanghai. Son père en mandarin car il était originaire de la province de Fujian. Et elle, eh ben, elle a vite mélangé tout ça avec du français pour avancer dans la vie en général et aussi un peu pour aider ses parents dans toutes les démarches administratives nécessaires, notamment pour avoir des papiers. Dans sa première BD à succès, elle racontait donc déjà l'histoire de son identité métissée. C'était Banana Girl, une fille jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Ce sont ses propres mots, je précise. Mm-hmm. Dans Les Saveurs du Béton, elle revient et elle raconte la suite, comment à 24 ans, elle devient diplômée de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Elle veut être urbaniste parce qu'elle sait de quoi elle parle. Elle a passé son enfance en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet, dans la cité de Lanou.
Bien déliré à Lanou, t'es pas le voyou.
Spéciale dédicace à Mario G, un rappeur avec 200 abonnés sur YouTube, 30 sur Instagram, qui chante donc la cité de la nuit.
Alors on revient à cette BD, Les Saveurs du Béton. J'imagine que ça parle des difficultés qu'on rencontre quand on est immigré, quand on habite la banlieue. Et d'ailleurs, la BD a reçu le prix BD du musée de l'histoire de l'immigration.
Exactement. En fait, il y a 1000 sujets dans ce roman graphique. Le combat de Kellam, c'est de lutter contre sa triple peine, être une femme chinoise venant des banlieues. D'abord, en grandissant, elle constate et explique comment le film de banlieue est devenu un film de genre qui entraîne souvent des retombées négatives sur les jeunes des cités avec les clips, les films, les reportages télé. Être chinoise, raconte-t-elle, c'est aussi souffrir d'un racisme plus ou moins sournois, comme quand par exemple elle est comparée à un petit chien trop mignon, le pékinois, avec son visage aplati et son corps trapu. C'est pas idéal pour se construire une féminité. Et puis avoir une autre culture aussi, ne pas forcément apprécier les arts martiaux alors qu'on vous en parle tout le temps, et aduler des stars totalement inconnues ici. En 1995, l'autrice a 10 ans, tout le monde kiffe Madonna et Michael Jackson. Elle a des posters d'un chanteur qui vend encore plus d'albums qu'eux, mais que personne ne connaît. C'est Jackie Chung, pas Jackie Chan, hein. Jackie Chung, écoutez. Jackie Chung, surnommé à Hong Kong le dieu de la chanson, des millions et des millions d'albums vendus, mais personne ne le connaît à Bagnolet, et visiblement personne ne le connaît non plus dans ce studio.
Pas du tout, pas du tout. Donc, Les Saveurs du Béton, c'est une BD en noir et blanc, dessinée un peu à la façon Riyad Satouf. Ouais. Il y a beaucoup d'humour, on l'a compris, et des moments un peu plus difficiles.
Oui, mais toujours raconté avec beaucoup de douceur, comme quand tout à coup, dans la BD, elle dessine tout le monde en mouton, quand, avec sa mère, elle doit faire renouveler tous les mois son titre de séjour à la préfecture de Bobigny, sous les yeux menaçants d'un vigile dessiné pour l'occasion en bulldog, qu'il neige, qu'il vente. Et ben, elle voit toutes ces personnes obligées de dormir devant les portes de l'établissement, mais heureusement que sa maman lui a fait un petit thermos chaud d'une boisson composée de baies de goji, de ginseng, de tubercule d'igname. D'ailleurs, à l'école, sa maîtresse lui a dit tu pourrais quand même en faire goûter à tes petits camarades. Le verdict des petits camarades est sans appel, c'est dégueu. Idéal pour voir sa cote de popularité s'effondrer en classe. Aujourd'hui, les magasins bio font fortune avec ces mêmes jus détox. J'ai envie de dire, ironie du destin.
Voilà, 10 ans ou 15 ans trop tôt. Alors, si vous voulez retrouver la BD Les Saveurs du Béton sur la pochette, on voit l'autrice, toute jeune fille, dessinée avec ses parents qui entourent la cité de Lanou.
Oui, et sur son Instagram, elle a mis une vraie photo de ses parents en écrivant « On n'avait rien quand nous sommes arrivés en France, rien sauf du courage. Mes parents m'ont appris une chose, quand on tombe, on se relève. Nous sommes beaucoup tombés, beaucoup écorchés, mais on s'est relevés et nous sommes là. Aujourd'hui, je me sens heureuse. Alors je ne vous souhaite pas de réaliser vos rêves les plus fous, mais plutôt de saisir toutes ces petites joies qui me semblent rien. Votre thé du matin, votre café du matin, un rayon de soleil, le rire d'un ami, gardez-les auprès de vous le plus longtemps possible si vous y arrivez. Alors oui, bravo à Kellam pour cette BD qui est un vrai petit bonheur, qui s'appelle Les Saveurs du Béton, donc spéciale dédicace à Bagnolet et en particulier à la cité de Lanou quand même.
Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Redites le nom du rappeur.
Comment il s'appelle? Alors en plus il donne son snap sur le...
Lâche-moi sur Snap. Il s'appelle. Ah, je suis. Je l'ai plus.
Et vous êtes perdu dans votre texte, c'est pas grave. Mario J.
Mario J.
200 abonnés. Heureusement que j'ai votre texte en secours. Culture Média continue. Merci, Bordonnave. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Ben, son nouvel album vient de sortir. On peut aussi le voir en concert. L'album s'appelle Red Mango. Il y a des titres reggae. Il y a aussi des titres plus nostalgiques, langoureux. Exemple, I Forgot to Be Your Lover. Mention spéciale pour les chœurs. Extrait.
I've attendu. Lately that I love you. Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Or when you needed me? Now I realize that you need love too.
Chez Ben qui envoie des SMS pendant qu'on fait une interview, ça m'était encore jamais arrivé.
Non, William Bell, c'est vraiment c'est une chanson qui me touche beaucoup. J'étais très content de la reprendre.
Vous étiez venu nous voir en 2020 pour parler de votre avant-dernier album, c'était le quatrième, Addicted to You. C'est alors que vous avez retiré l'oncle Saul de votre nom Ben. Pour quelle raison? Et est-ce que vous regrettez pas?
Non, parce que déjà, j'ai pas dit que je reviendrai pas. Ouais. C'est une de mes identités, on va dire. Je ne suis pas que Ben l'oncle Saul. Ça veut dire que ce personnage avec les lunettes, avec les bretelles, D'accord. avec le côté très vintage, revival, je ne dis pas que je ne m'en resservirai pas plus tard dans ma musique. Mais là, j'avais envie de simplifier, d'aller vers d'autres choses.
Ce que j'ai regardé les notes de pochette, ce que je travaille beaucoup avant de préparer une émission, dans les notes de pochette, vous êtes crédité sous Ben l'oncle Saul. Et quand on vous cherche sur Apple Music, on ne vous trouve pas sous Ben, vous êtes sous Ben l'oncle Saul.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, mes réseaux sociaux, moi, ça fait 10 ans qu'ils sont en place et je suis toujours sous Ben l'oncle Saul. Mon site internet, c'est benloncle-saul.fr. Voilà. En vérité, voilà, c'est presque graphique. C'est-à-dire que sur les pochettes, je suis très content de ne pas avoir à mettre l'oncle Saul. Et d'avoir juste un point qui à la suite de Ben.
En 2020, il y avait des concerts prévus en plus de la France. Vous deviez aller, je dis vous deviez, parce que ça s'est annulé à cause du Covid, donc le confinement, à Zurich, en Allemagne, à Düsseldorf, Berlin, Hambourg, à Utrecht, en Hollande, à Londres. Ça prouve que vous êtes connu en dehors des frontières françaises. Comment vous l'expliquez? C'est rare pour des Français.
Bah, ceux-là, on a réussi à les faire. C'est ça qui était génial, de septembre à décembre. On a réussi à tourner, et c'était assez incroyable. D'ailleurs, les portes, on avait l'impression que les portes se refermaient derrière nous à chaque fois qu'on passait, notamment en Autriche. Je crois que le lendemain, ils ont refermé les portes des frontières. C'est une musique qui, je pense, touche beaucoup de gens en Europe. La soul music. Ouais. Je pense aussi que le fait de chanter en anglais peut aider. Chanter en français, la francophonie est grande. Donc, nous... On est sur scène, on est dans le camion et on va à la rencontre de notre public.
Il y aura quel groupe, quelle configuration pour les concerts?
Là, en ce moment, on a un nouvel organiste, un mec qui s'appelle Damien Cornelis et qui joue du B3, alors un Hammond.
C'est le gros orgue Hammond.
Ouais, c'est un meuble. C'est un peu compliqué à déplacer, mais ça vaut le coup.
Ouais. mais c'est plus avec votre groupe, les Monophonics?
Non. Je joue avec mon groupe français, enfin... Mon groupe français, j'adore, bonjour, c'est Christophe Lardot, c'est Olivier Carol, c'est Stanislas Augry et c'est Damien Cornelis.
Je voulais pas qu'on se quitte sans entendre du Ben l'oncle Saul, le triple disque de platine, c'était ce tube Soulman.
Qui a fait ça?
C'est vous qui avez fait ce morceau. Vous le faites sur scène aussi ou pas?
Bah évidemment.
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 C'est le rappel. Si vous ne le faites pas, les gens ne quittent pas la salle.
Non, c'est même pas le rappel, mais c'est vrai que si je ne fais pas ce morceau, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a une petite anecdote, si j'ai le temps de la raconter.
Allez-y.
Qui est assez touchante. Je crois que c'était sur mon troisième album. J'avais juste envie de présenter le nouvel album et je n'ai pas forcément fait cette chanson. Et à la fin, c'était dans le sud de la France. Il y a un papa, un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu n'as pas fait la chanson ». Et là, j'ai senti qu'il y avait un peu d'animosité dans sa voix, sa petite de 10 ans en pleurs, etc. Et là, je me suis senti vraiment con. Voilà.
Et ben nous, on l'a fête. Merci d'avoir été avec nous. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebré. Chaque jour, il y a des stars qui viennent voir notre invité. Et ce matin, Ben, on dit tout à nos auditeurs. Vous deviez être là dans l'émission du 28 avril. Il y a eu un petit incident, mais finalement, vous êtes présent ce matin. Et Orelsan a un mot à vous dire.
Ouais, c'est cool.
Un incident, dis que tu t'es pas réveillé, Ben.
C'est vrai.
Ouais, j'ai toujours su que j'étais l'une de tes aspirations. Du coup, bah, pour la chronique de Marc-Antoine Lebray, bah, on avait écrit le 28 avril, donc bah, on a repris le texte, cool. Et l'inconvénient, c'est que bah, ce matin, on a dû se réveiller alors que c'est férié, pas cool.
Et dès qu'il a su que vous étiez invité, il a booké sa venue, c'est Philippe Manœuvre.
Ouais, ça groove sur Europe 1. Moi, dès que j'écoute Ben, l'oncle Soul, ah, je replonge dans les 70s. C'est tellement bon d'écouter de la soul, du vrai son américain. D'ailleurs, Ben, t'es né dans la ville de Tower, près de Boobs. Enfin, dans la ville de Tours, près de Loche. Mais c'est pas grave, parce que t'as collaboré avec le célèbre label Blue Note qui signe les plus grandes pointures du jazz comme Gad Elmaleh. Mais on s'en fout parce que Ben, ton talent, lui, il est international comme tu l'as prouvé le 16 mai dernier sur la scène du Nouveau Matin, enfin du New Morning.
Et il présentait les victoires de la musique en 2011 quand vous aviez gagné. Ben, ouais, c'était vrai. Bien sûr, il est avec nous, Cyril Hanouna.
Ouais. Salut mes petites beautés, ça va ma chérie? Ça va? J'adore. Et Ben, je te dis, voilà, je t'adore. Voilà, t'es mon préféré. Ça va, Philippe? Je t'adore. T'es mon préféré. Bon, mais chérie, je te dis, Ben, t'as eu grave de la chance. Voilà, je te dis qu'en 2011, ce sont moi qui présente les victoires. Parce que si ça avait été Michel Drucker, le temps qu'il traverse la scène pour te remettre ton prix, toi, tu serais encore en train d'attendre les bras tendus qu'il te file la victoire. Les crampes que t'aurais eu, frérot. Ça va, Sébastien? Je t'adore, t'es mon préféré. Ça va, Louise? T'es ma préférée, ma chérie. Bisous, les chéries. Je t'adore. C'est magnifique.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. À demain. Merci d'avoir été là en ce jour férié. Vous êtes tous réveillés. Merci, Ben. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec la chef étoilée Kelly Rangama. C'est une nouvelle saison de l'émission Voyage et délices sur France 3. Des plats traditionnels d'outre-mer revisités. Une invitation dans cette émission à l'invasion. Et puis le comédien, chanteur, metteur en scène Michel Faux, une pièce qui joue aux côtés d'Amanda Lear. Qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford? C'est une bonne question. Juste après le flash, vous retrouvez Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est vos préférés, je crois. Ouais, bien fait pour vous. Quel est le programme du jour?
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, je plaisante pas, on va apprendre à parler juste dans l'émission n'importe quelle langue étrangère qui vous fait plaisir. Je plaisante évidemment un peu, mais en tout cas, on va voir pourquoi en France, on est aussi nul dans cette type d'apprentissage. On fera le point aujourd'hui sur des méthodes innovantes pour nous faciliter la vie de ce côté-là. Voilà, on fera le point avec nos experts dans un instant.
Et puis on fera également le point avec nos chroniqueurs et nos chroniqueurs tendances. On va parler atelier d'éveil musical pour les tout-petits, mais aussi de ces objets déco totalement innovants avec nos chroniqueurs. Voilà pour le programme de Bienfait pour vous.
On vous écoute et nous on se retrouve demain à 9h. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.